Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1951, le docteur Fernand Lamaze, compagnon de route du Parti communiste français, rencontre lors d'un séjour en URSS le docteur Nikolaïev, qui lui présente la méthode psychoprophylactique d'accouchement. Inspirée des travaux de Pavlov sur les réflexes, cette pratique considère que la douleur associée à la mise au monde n'est pas un fait de nature et qu'il est possible, par un enseignement, de dénouer le lien millénaire entre accouchement et souffrance. Bouleversé par cette découverte, le docteur Lamaze développe cette méthode à la clinique des métallurgistes de la CGT à Paris. De plus en plus de maternités y ont recours et à partir de 1956, les cours de préparation à l'accouchement dits « sans douleur » sont remboursés par la Sécurité sociale. En 1963, le sixième volet d'une série d'émissions consacrées à la douleur proposée par Harold Portnoy et présentée par Michel Foucault se penchait sur cette méthode et en analysait les enjeux à travers le témoignage de femmes, de spécialistes, médecins ou psychologues. Rappelons qu'il faudrait encore attendre 20 ans avant que ne commence à être pratiquée dans les maternités françaises l'anesthésie péridurale, qui à son tour suscita bien des polémiques. Recherche de notre temps, L'accouchement sans douleur, une émission diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 10 avril 1963.
RTF France 3 Nationale présente Recherche de notre temps.
Recherche de notre temps, douleur et souffrance. Une suite d'émissions composée par Harold Portnoy avec la collaboration de Claude Frère et de Colette Garrigue est présentée par Michel Foucault. Aujourd'hui, l'accouchement sans douleur, avec la participation de Claude Revaud-Dallonne, sociologue. Alfred Métro, ethnologue, ainsi que des témoignages, dont celui d'un médecin. Réalisation José Pivin.
L'accouchement sans douleur a été sans doute une des grandes expériences mythologiques de l'après-guerre. Et ce n'est pas un de ses moindres mérites, car notre époque, après tout, n'est pas si riche de telles nouveautés. Je veux dire ceci. À partir de certains perfectionnements, disons si vous voulez, pour être absolument neutre, de certaines modifications d'ordre technique ou d'ordre psychologique, on a cru sincèrement que l'humanité avait franchi une étape importante dans son grand effort d'élimination de la douleur. On y a vu, avec évidemment le coup de pouce d'une physiologie pavlovienne pourtant un peu désuète maintenant, le triomphe de la science socialiste sur le savoir rétrograde du capitalisme. On a cru voir grandir, sur un horizon tout proche maintenant, l'image d'une humanité désaliénée. À vrai dire, le public aujourd'hui est bien loin de pareilles rêveries.
Avez-vous entendu parler de l'accouchement sans douleur ?
Oui.
Est-ce que ça vous intéresse ?
Ben, particulièrement, oui, parce que malgré tout, j'ai eu des enfants et
oui. J'en
ai eu deux par la méthode dite normale, mais le troisième, je l'ai eu par la respiration qui
contrôler,
pratique l'accouchement sans
et
douleur.
Et vous préférez l'accouchement sans douleur ou la méthode normale ?
Ben, l'accouchement sans douleur quand même.
Avez-vous entendu parler de l'accouchement sans douleur ?
Non, moi je connais pas
oui,
ça.
Moi, j'entends. Mesdames, s'il vous plaît, avez-vous entendu parler de l'accouchement sans douleur ? Mais savez-vous ce que c'est ?
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous trouvez que c'est un progrès par rapport à la méthode dite normale?
Aucun.
Pourquoi? Pouvez-vous dire pourquoi?
Ça n'a qu'une action psychologique, c'est tout.
Monsieur, s'il vous plaît, avez-vous entendu parler de l'accouchement sans douleur?
Non, oui.
Pensez-vous que ce soit un progrès?
Pour moi, personnellement, un accouchement, c'est naturel. Alors, automatiquement, ça doit se passer naturellement.
Vous êtes marié?
Oui.
Vous avez des enfants?
Oui.
Qui sont trop grands pour être nés par cette méthode?
Non, il y a 9 ans, le dernier.
Mais il est né, vraiment?
Normalement.
Normalement. Vous pensez que c'est anormal, l'accouchement sans douleur?
Oui.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que je pense que l'accouchement est naturel, et que même les animaux, n'est-ce pas, accouchent naturellement. Donc on ne doit pas supprimer ce qui est naturel.
Mais vous ne pensez pas qu'on peut aider ce qui est naturel?
Aider, oui.
Et vous ne pensez pas que l'accouchement sans douleur peut aider, justement?
Je ne le crois pas.
Moi, je pense quand même qu'il faut le faire le plus simplement possible.
C'est-à-dire la méthode naturelle?
Oui. Celle qui adopte vraiment l'accouchement sans douleur, je trouve que c'est vraiment une question de paresse. On peut très bien...
Vous pensez qu'elles sont paresseuses?
Je pense. C'est une question d'un manque de courage, je crois.
Oui. Avez-vous entendu parler de l'accouchement sans douleur?
Oui, assez souvent.
Vous êtes mariée?
Absolument pas, non.
Si vous vous mariez, si vous avez des enfants,
oui.
Est-ce que vous pensez que vous conseillerez à votre femme de pratiquer cette méthode?
Oui, tant qu'il n'y a pas utilisation de produits chimiques, narcotiques ou des choses comme ça.
Mais si c'est une simple éducation physique et psychologique,
oui, certainement.
Vous considérez que c'est un progrès?
Oui.
Vous le voyez, l'accouchement sans douleur ne suscite plus guère de passion aujourd'hui. Il est entré dans l'existence quotidienne. On l'accepte ou bien on le rejette, avec une sérénité tranquille et un peu butée. Il y a pourtant un fait important qu'on a découvert à travers lui. Fait plus sociologique que physiologique, ou plutôt qui est l'un et l'autre à la fois. On sait, depuis Marcel Mauss, que la société, le cadre socio-culturel de notre existence, n'agit pas seulement sur notre conduite, sur notre pensée, sur notre langage, mais qu'il peut mordre sur notre corps lui-même, conditionner ses souffrances, conditionner ses maladies, conditionner sa mort même. On a vu des primitifs mourir d'une mort réelle, mais culturellement commandée, parce qu'ils avaient touché un objet interdit. L'accouchement est probablement, comme la sexualité, comme l'alimentation, une des conduites biologiques de l'homme les plus hautement conditionnés par la culture. Et le professeur Métro a bien voulu nous apporter son témoignage.
Dans les sociétés primitives, les femmes semblent accoucher très facilement. Elles s'y préparent dans un sens, c'est-à-dire qu'avant l'accouchement, toutes sortes de précautions magiques sont prises. Mais l'accouchement se produit généralement rapidement, et l'accouchée, souvent, retourne à ses occupations quelques heures après l'accouchement. Enfin, les cas sont innombrables où une femme accouche au champ et revient le soir même en portant son bébé et souvent même portant encore le panier avec les provisions qu'elle a recueillies. Naturellement, il y a des accouchements qui sont difficiles et là, généralement, l'issue en est fatale. J'ai moi-même assisté à un accouchement extrêmement difficile, au point que j'ai cru que la femme ne s'en tirait pas. Or, elle n'a émis aucune plainte.
Comment expliquer le fait que les femmes n'expriment pas leurs souffrances?
Je crois que ceci est culturel. Il s'agit là de normes imposées par la culture, comme beaucoup de primitifs souffrants font un très grand effort pour ne pas manifester leur douleur par des grimaces ou même surtout par des cris. Je crois que certainement, on ne peut pas dire que les femmes ne souffrent pas. Je crois qu'elles souffrent, car du même, j'ai examiné le visage de cette femme dont l'accouchement était difficile. Je le voyais, ce visage ravagé de douleur. Mais simplement, la culture exige... Enfin, je vous parle ici des sociétés que je connais, c'est-à-dire des Indiens de l'Amérique du Sud. Mais je crois qu'en général, il est de mauvais ton d'exprimer, de crier, de s'abandonner à cette faiblesse. D'autre part, il faut nous rappeler que les femmes ont des enfants beaucoup plus tôt que dans nos sociétés. Elles commencent à être mères souvent 16-17 ans. Que leur vie est une vie au grand air, qu'elles sont habituées tout de même à une vie, dirons-nous, plus sportive, bien qu'il ne s'agisse pas de sport, mais de travaux au grand air. Et ceci, probablement, doit favoriser le processus de l'accouchement.
Donc en définitive, on peut dire que dans certaines sociétés, l'accouchement semble s'apparenter à l'accouchement sans douleur que l'on pratique en France.
Il y a certainement une ressemblance du fait, je le répète, de cette vie qui est tout de même une vie mettons, plus saine, plus normale, plus animale, dans ce sens que la nôtre, et que tout de même le corps est plus libre, les vêtements ne contraignent pas le corps, et d'autre part, les mères sont tout de même beaucoup plus jeunes en général. Alors une fois le premier accouchement, qui est généralement le plus redoutable, les autres se font beaucoup plus facilement. Et psychologiquement, je tiens à insister sur ce fait qu'il existe une préparation magique. C'est-à-dire que pendant les derniers mois de la grossesse, la femme et le mari observent un certain nombre de règles qui sont destinées à faciliter l'accouchement. Et là, nous pourrions peut-être faire ce rapprochement avec l'accouchement sans douleur, puisque la femme qui est certaine d'avoir observé tous ces tabous, toutes ces règles, arrive à l'accouchement, convaincue que la chose se passera sans difficulté.
En quoi consistent ces tabous ?
Oh, il faut éviter de manger un certain nombre d'animaux, il faut éviter par exemple de faire des nœuds, il faut éviter de se serrer. Et ces tabous sont observés non seulement par la femme, mais généralement par le mari, par le père, qui doit lui-même éviter tout geste qui, par les lois de la magie symbolique, pourrait lier et empêcher l'accouchement, l'empêcher ou le retarder. D'autre part, l'accouchement sans douleur prévoit une participation active du père. Or, dans de nombreuses sociétés primitives, ici je parle surtout des Indiens de l'Amérique du Sud, l'institution de la couvade correspond en quelque sorte à cette participation du père. La couvade est un vieux mot français qui était employé pour des pratiques connues en Pays Basque et en Corse. C'est-à-dire, le mari faisait la gésine, pour employer un vieux mot français, en lieu et place de la femme. C'est-à-dire qu'il se mettait au lit et lui-même recevait des soins qui, normalement, auraient dû être dévolus à son épouse. C'est une coutume dont nous parlent beaucoup d'écrivains du XVIe siècle et qui s'est perdue peut-être au XVIIe siècle. Or, chez les Indiens, au moment de l'accouchement, le père doit rester dans son hamac sans rien faire et souvent pendant de très nombreux mois, il doit s'abstenir de toute activité qui pourrait nuire à son jeune enfant. Il ne peut pas aller chasser, il ne peut pas pêcher, il ne peut pas se servir d'un couteau, etc. Et comme il n'a rien à faire, il reste généralement attendu dans son hamac, non pas pour recevoir au lieu et place de sa femme les soins dus à une accouchée, mais simplement parce qu'il doit s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire à son enfant. Donc il y a participation du père à l'accouchement.
L'accouchement sans douleur, c'est au fond quelque chose de très important. De là les polémiques passionnées, parfois sérieuses, parfois un peu risibles, qu'il a suscitées. L'accouchement sans douleur, ce n'est ni plus ni moins, mais c'est immense, qu'une modification profonde dans l'équilibre des valeurs culturelles dont la féminité, la maternité, la naissance, et bien sûr par là le rapport mère-enfant, ont été affectés pendant des millénaires par la société occidentale. Voici ce que nous dit un spécialiste de l'accouchement sans douleur.
L'accouchement n'est rien d'autre que l'expression d'un phénomène, l'expression biologique d'un phénomène plus général, la maternité. C'est-à-dire que l'accouchement est un phénomène culturel. Et le principe de base tient au fait que la douleur, pour nous, n'est pas un attribut de l'espèce humaine, mais une acquisition de l'espèce humaine. C'est-à-dire que la douleur est conditionnée, structurée par des éléments socioculturels. Et c'est précisément sur le plan socioculturel que nous situons la préparation psychoprophylactique.
Vous voulez dire par là que, en somme, l'accouchement a toujours été associé à une série de rites, à une certaine vision dramatique de la femme. C'est de ça qu'il faut la débarrasser.
Exactement. La douleur, c'est quelque chose de très complexe, évidemment, qu'il n'est pas question de définir ici. Mais ce qui est certain, c'est que la douleur de l'accouchement est une douleur d'un genre un peu spécial et qui a plusieurs composantes. Il est certain que la douleur de l'accouchement est ambiguë, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs dimensions. Mais la dimension socioculturelle nous paraît être la dimension déterminante. Cela veut dire qu'il y a dans l'accouchement un rituel et même une gestuelle. L'accouchement se situe à l'égal des autres phénomènes de la sexualité, c'est-à-dire la puberté ou la ménopause par exemple. Et il est évident que les tabous sociaux l'influence de la littérature, l'influence des préjugés et aussi, disons-le bien, tout un lot d'acquisitions génétiques et génériques expliquent le comportement de la femme et aussi, bien sûr, le statut même de la femme au sein d'une société.
C'est-à-dire que la femme a toujours vécu ça dans un contexte de passivité, d'attente, de malédiction, peut-être même de culpabilité dans la mesure où une notion de péché religieuse est venue s'ajouter. Et que donc, pour elle, souffrir fait partie traditionnellement de son sort de femme.
C'est cela, oui. Ce qui frappe surtout, c'est cette constatation. La femme était passive. On peut même dire, à la limite, que l'attitude de la femme enceinte était faite que de passivité. La femme recherchait cette passivité. Et il faut bien dire que le corps médical cultivait cette passivité de la femme. Cette passivité s'explique du reste par des éléments extrêmement nombreux qu'on ne peut pas approfondir ici. Mais on retrouve dans tout accouchement ce climat de drame et de mystère et de culpabilité également. C'est la raison pour laquelle nous pensons que la méthode psychoprophylactique d'accouchement sans douleur doit démystifier et dédramatiser l'accouchement, le démythifier, hein, rendre à l'accouchement son véritable visage, celui d'un phénomène physiologique, d'un phénomène organique absolument normal, mais ayant des implications sociales extrêmement importantes.
C'est donc, en somme, une éducation, une certaine forme de mentalité qui est tout à refaire, enfin tout à apprendre.
Oui, voilà, vous venez de prononcer deux mots extrêmement importants. C'est d'abord une éducation. En effet, la préparation psychoprophylactique est une éducation de la femme enceinte. Une éducation doublée d'un apprentissage de l'accouchement. Dire que c'est une éducation, cela situe immédiatement les problèmes sur le plan de la culture. En effet, c'est une éducation qui vise à instruire la femme de ce qui se passe dans son corps, dans son organisme, au moment de la grossesse et de l'accouchement. C'est-à-dire que c'est une éducation qui réconcilie la femme avec son corps. On voit donc très rapidement que l'accouchement sans douleur est avant tout un problème de connaissance. Et l'apprentissage de l'accouchement consiste pour la femme à acquérir un certain nombre de techniques lui permettant de mieux se comporter au moment de l'accouchement. L'éducation de la psychoprophylaxie nous permet de valoriser un autre élément, c'est que la préparation s'adresse à la mentalité de la femme enceinte. On a souvent dit que la préparation psychoprophylactique était une psychothérapie. Ce n'est pas tout à fait cela. À notre avis, ce n'est pas une psychothérapie véritable dans le sens plein du terme. Nous disons que c'est une éducation ayant des effets psychothérapiques ou ayant une intention psychothérapique. Cela veut dire que, premièrement, nous ne nous adressons pas à la psychologie de la femme enceinte. Nous ne cherchons pas à restructurer la personnalité de la femme enceinte, mais à modifier sa mentalité. Ou alors, si l'on veut, on peut dire encore que c'est une psychothérapie temporaire et partielle. Mais nous aimons mieux la définir comme une éducation ayant des effets psychothérapiques, pour bien montrer que la psychologie de la femme enceinte ne se trouve pas concernée véritablement par la préparation en tant que telle, mais que sa mentalité se trouve transformée.
On comprend dans ces conditions pourquoi l'accouchement sans douleur a connu, à ses débuts au moins, des oppositions résolues. C'est qu'il n'était pas tellement une révolution scientifique qu'une mise en question. Une mise en question de certaines conduites psychologiques, morales, culturelles, qui étaient celles des femmes à l'égard de leur féminité, à l'égard de leur maternité. L'accouchement sans douleur supprimait ce miroir narcissique où la femme avait pris l'habitude de contempler, de valoriser et jusqu'à un certain point, disons-le, de sanctifier ses souffrances. Il a donc fallu toute une révision, dont Mme Revaud-Dallonne vous explique les difficultés.
Par opposition à ce qui se passait il y a 10 ans, quand préparer l'accouchement sans douleur, c'était en quelque sorte faire un acte de pionnier, il devient très courant et presque banal maintenant de préparer son accouchement suivant cette méthode. Et par opposition, ce sont les femmes qui refusent la préparation qui constituent une sorte d'exception. On peut se demander quelles raisons elles donnent à leur refus. Eh bien, en premier lieu, c'est toujours ou presque toujours le manque de temps, la fatigue ou le manque d'intérêt, en somme, une sorte de négligence à demi reconnue. Et en même temps, très souvent en même temps, elles invoquent leur ignorance de la méthode. Et elles disent « je ne sais pas ce que c'est, on ne m'a rien dit » ou « je me méfie de tout cela, je n'y crois pas et je ne veux pas faire quelque chose que je ne connais pas ». En fait, il circule très peu d'informations claires et énormément d'inepties et de racontars. Mais si on veut être réaliste, plus la méthode se répand, plus les femmes risquent de la connaître, d'en entendre parler, de rencontrer des femmes qui l'ont pratiquée. Et finalement, on peut dire que le manque de temps ou l'absence d'informations ne sont souvent que des paravents. En réalité, l'ASD est refusée pour des raisons qui sont plus profondes.
L'ASD, l'accouchement sans douleur.
L'accouchement sans douleur. Certaines femmes refusent beaucoup plus clairement la méthode. Elles disent, par exemple, ce sont des complications inutiles. Mieux vaut laisser faire la nature. Ou bien la gymnastique, ça nous fatigue, ça peut faire du mal à l'enfant. Ou encore, d'une manière plus personnelle, moi, ça ne me concerne pas, je n'en ai pas besoin, j'accoucherai très bien comme ça. Ou alors, je ne suis pas capable, c'est trop compliqué, c'est pour les intellectuels. Et le motif le plus intéressant et peut-être le plus profond dans cet ordre d'idées s'exprime souvent dans cette forme. Moins on parle de ces choses-là, mieux ça vaut. De toute façon, il faudra en passer par un sale moment. Et derrière cette verbalisation, on voit que pour ces femmes, il ne faut pas toucher à la nature, à ce qu'elles appellent la nature, c'est-à-dire aux habitudes humaines. C'est une chose qui peut être dangereuse. Au fond, elles sont très anxieuses et elles préconisent un genre de passivité qui est un refuge. Le seul recours qu'elles ont au moment de l'accouchement, c'est la confiance totale dans le médecin et un certain espoir dans les anesthésies classiques. Ce genre de femme, en général, s'abandonne à un destin. Il existe encore un autre motif de refus qui est encore plus profond. D'autres femmes ne tiennent pas finalement à supprimer les douleurs de l'enfantement, même si on leur offre de les atténuer ou de les supprimer par des moyens psychologiques et non par des moyens pharmaceutiques. Ce serait injuste de dire qu'elles désirent souffrir pour souffrir, ce n'est pas ça. Mais finalement, l'ensemble de leur personnalité ne s'accorde pas avec l'accouchement sans douleur. Il y a un côté quelquefois religieux, c'est philosophique, ça. Mais finalement c'est avec toute leur personnalité la plus profonde qu'elles refusent l'accouchement sans douleur. En effet, certaines tiennent absolument à vivre l'accouchement comme leur mère ou comme leur grand-mère, par tradition ou très souvent par peur de vexer une personne importante ou de dépasser la mère. Il ne faut pas dépasser la mère, ce serait mal. D'autres disent, c'est vis-à-vis de l'enfant qu'elles tiennent à souffrir. Et elles disent, si on met son enfant au monde sans souffrir, qu'est-ce qu'on a ? On sent qu'on met au monde si on souffre, m'a dit une femme. Toute relation d'amour implique la souffrance et il faut toujours donner pour avoir. Souffrir, en somme, ça serait payer pour avoir son enfant. Et il ne s'agit pas seulement là de l'enfant, il s'agit aussi quelquefois du mari. Une espèce de philosophie de l'existence représente le mari comme gagnant l'argent à l'extérieur, faisant la guerre pendant que la femme, elle, fait les enfants. C'est une part douloureuse, mais qui est une raison de fierté. Mais dans tous les cas que je viens dire, attitude vis-à-vis de la mère, vis-à-vis de l'enfant, vis-à-vis du père, la douleur a une fonction. Et c'est cette fonction qu'il est très difficile de faire évoluer. Elle se présente comme une monnaie d'échange. Et c'est très difficile de faire évoluer des attitudes comme celle-là parce qu'elles sont profondes. Préparer l'accouchement sans douleur, c'est faire un effort conscient et prolongé, et vouloir agir sur la nature. Et ce genre de femme se réfugie dans la passivité. C'est cet aspect de l'accouchement sans douleur qu'elle refuse. Sous un autre aspect, préparer l'accouchement sans douleur, c'est accepter la société, l'aide sociale, entrer dans un groupe. Et elles veulent vivre leur accouchement comme une expérience tout à fait personnelle. Sous un autre aspect, préparer l'accouchement sans douleur, c'est promouvoir une réforme, c'est modifier une donnée biologique avec l'aide d'une science ou d'une technique contre une tradition. Et elles sont conservatrices. Et enfin, préparer l'accouchement sans douleur, c'est refuser la douleur. Mais elles pensent finalement que vivre, c'est souffrir. Et que la souffrance, c'est indispensable pour mûrir, pour se développer. Donc finalement, le refus de l'accouchement sans douleur pour ces femmes exprime leur situation globale, toute leur attitude d'ensemble devant l'accouchement, devant la maternité et même devant, on peut dire, tous les problèmes de leur existence actuelle. Mais il faut bien dire que ce refus n'est pas un mur, n'est pas inexorable. Il se passe quelque chose derrière, elles ne sont pas isolées ces femmes, elles lisent, elles parlent. À la consultation, elles rencontrent des médecins, elles rencontrent des autres femmes et très souvent elles évoluent. Dans une certaine mesure, nous possédons des clés pour infléchir cette évolution. Et nous en possédons particulièrement trois. La première, c'est l'influence du médecin, le conseil médical, qui est très important pour une femme enceinte. D'autre part, nous avons encore un autre moyen, c'est le contact avec les femmes ayant déjà accouché par la méthode et qui sont de plus en plus nombreuses et très efficaces pour promouvoir la méthode. Et enfin, nous avons la promotion de l'information qui doit se développer et favoriser un choix positif vis-à-vis de l'accouchement sans douleur. Il existe des différences sociales assez nettes entre les femmes qui choisissent de préparer l'accouchement sans douleur et celles qui le refusent. L'accouchement sans douleur est choisi essentiellement par des femmes offrant, je dirais, une sorte de stabilité de base minima, c'est-à-dire, en général, une situation sociale, professionnelle et familiale qui leur offre la possibilité de prévoir et d'organiser la grossesse et la maternité. Une instabilité professionnelle, sociale et familiale assez grande ne donne pas les moyens de préparer et d'organiser une naissance comme on le demande à la préparation de l'accouchement sans douleur. Donc il existe une sorte de sélection encore maintenant.
Les mythes étant ainsi expliqués et réduits, en quoi consiste, prise collectivement, la discipline de l'accouchement sans douleur? C'est ce qu'un spécialiste nous a expliqué.
Si vous le permettez, avant de répondre pleinement à cette question, je voudrais souligner ce terme « collectivement » que vous venez d'utiliser, pour bien montrer que la préparation psychoprophylactique n'a son plein effet que dans le cadre d'une préparation collective, pour précisément éviter le risque d'une personnalisation de la méthode, c'est-à-dire donner la prépondérance au phénomène de transfert, si cher aux psychanalystes. Et nous pensons au contraire qu'il faut dépersonnaliser dans une certaine mesure la préparation. En d'autres termes, il faut toujours qu'il y ait entre la femme enceinte, entre la future accouchée et le médecin, il faut qu'il y ait l'écran de la préparation. La femme doit se modeler en fonction de la préparation et non en fonction de l'accoucheur. Autrement, les risques, évidemment, seraient beaucoup trop grands. Quant au terme de discipline, disons qu'il ne s'agit pas du tout d'une discipline militaire. Il s'agit simplement de se plier volontairement aux exigences de la préparation qui consiste pour la femme à acquérir certaines techniques du corps, des techniques extrêmement faciles à acquérir, mais et qui n'ont d'intérêt que dans la mesure où elles donnent lieu à un apprentissage de l'accouchement. Elles ne sont valables que dans la mesure où la femme les met en pratique régulièrement pendant la période de sa grossesse. Ces techniques, elles sont très connues, évidemment, ce sont à peu près essentiellement des techniques d'éducation respiratoire et des techniques d'éducation neuromusculaire. Nous disons bien neuromusculaire, éducation neuromusculaire et non gymnastique, car malheureusement, là encore, il y a beaucoup de confusion et des confusions regrettables qui se glissent dans l'esprit des gens, et nous pensons pour notre part qu'il n'est pas nécessaire de faire une place si belle à la gymnastique qui, en tant que telle, est-ce qualité, n'a pas d'action sur la douleur de l'accouchement. Nous aimons mieux voir dans les techniques d'apprentissage des éléments qui permettent à la femme de mieux se contrôler et de mieux prendre conscience du phénomène organique qu'est l'accouchement. Elle décontracte ses muscles, ses nerfs, si vous voulez, mais il y a également une prise de conscience, et c'est ce sur quoi nous mettons l'accent, il y a une prise de conscience du phénomène décontraction musculaire. Et cette prise de conscience permet d'élever le tonus cortical, comme nous le disons en termes pavloviens. Il n'est pas question de développer, en fait, d'entrer dans les détails maintenant, mais disons que nous recherchons toujours une activité corticale, une activité du cerveau, une activité cérébrale de la femme. Il ne s'agit pas de la confiner dans le repos. Autrement, ce serait de la relaxation, ce serait une forme de passivité. Nous essayons au contraire d'obtenir à chaque instant une activité de la femme enceinte. C'est cette activité qui permet d'indoloriser l'accouchement parce que cette activité crée dans l'organisme même de la femme des modifications très importantes sur le plan des structures nerveuses. La femme participe pleinement à son accouchement et c'est l'autre aspect important de la préparation. La femme dirige véritablement son accouchement en fonction des connaissances et à partir des connaissances qu'elle aura acquises et grâce à la collaboration de la sage-femme et du médecin. Non seulement elle passe de la passivité à l'activité, je pense que les acquisitions et les avantages de la préparation sont beaucoup plus considérables encore. On peut résumer tout cela en disant que la préparation constitue véritablement une hygiène de la femme enceinte. Une hygiène morale, une hygiène mentale. Et cette hygiène est d'abord une hygiène individuelle. En ce sens que la femme retrouve dans l'accouchement de nouvelles conditions de croire et d'espérer, si vous voulez. Elle est débarrassée de la passivité, elle est débarrassée du mystère et du drame de l'accouchement. À partir des connaissances qu'elle a acquises, elle se forge elle-même une activité nouvelle, lui permettant de transcender la douleur. Et elle acquiert donc de cette façon une vision nouvelle d'un phénomène organique qu'elle a pu dominer, qu'elle a pu contrôler. Ce qui fait que la femme reprend confiance en elle-même. Et en ce sens, on peut affirmer que la préparation constitue une hygiène mentale. Et cette hygiène individuelle déborde très rapidement sur l'entourage de la femme enceinte. Elle devient donc une hygiène collective qui s'exerce à l'endroit du mari et à l'endroit des enfants.
C'est ça, il n'y a plus la rancœur de la douleur subie contre le mari.
Exactement.
L'enfant qui est le symbole enfin, de cette souffrance.
Oui, parce que la douleur, ce n'est pas seulement ce que la femme ressentait pendant l'accouchement. Il faut bien comprendre que la douleur crée des liens d'un genre nouveau entre la femme et cet enfant qui concrétise, qui symbolise cette douleur et qu'elle avait constamment sous les yeux et qui faussait la nature des rapports entre la mère et l'enfant. Et il est curieux du reste de constater que depuis quelque temps, et c'est tant mieux, on met l'accent de plus en plus sur la qualité, sur la nature des rapports mère-enfant. Car ce qui est certain, c'est que les rapports mère-enfant sont complètement modifiés par la préparation. La douleur était un obstacle à l'épanouissement des qualités humaines. Et dans ce sens, on peut considérer que la pratique de la psychoprophylaxie constitue véritablement une promotion de la femme.
Et voici maintenant un témoignage.
Je vais préparer l'accouchement sans douleur. Je dois dire que je n'ai jamais eu peur, parce que je pense que c'est une chose tout à fait naturelle et je n'ai pas pensé que je pourrais en mourir, qu'il pourrait se passer des tas de catastrophes. Je dois dire, aucune appréhension. Mais enfin, l'accouchement sans douleur, pour la question de discipline, ça m'intéressait, et aussi pour la question de conscience. À partir du moment où l'accouchement s'est déclenché, le fait de suivre la progression, ça m'a profondément touchée. Je vais un médecin très bien qui me tenait au courant de tout ce qui se passait en me disant « Bon, il se passe ceci, vous en êtes là, vous en êtes à tel stade. » Et entre-temps, entre les contractions, on était en train de parler du dernier film de Marilyn Monroe, et on s'amusait, je dois dire, assez bien. Puis tout à coup, je lui disais, attendez, j'ai une contraction, bon, qu'il disait. Et puis, à un moment, il m'a dit, vous poussez encore 7 fois, et ça y est. Et c'était vrai. Et ça a été très, très important pour moi. Le fait qu'il n'ait pas menti. Alors bon, bah, j'ai encore poussé 7 fois, il m'a dit, bon, bah, la tête sort, elle est sortie, c'est le moment, c'est un peu gros à sortir, mais enfin. Puis les bras sont sortis, et à ce moment-là, il m'a dit, eh bien, tirez-le vous-même. C'est-à-dire que l'enfant était encore pris jusque sous les bras dans mon ventre, et c'est moi qui l'ai tiré, et c'est moi qui ai dit au médecin, c'est une fille. Et ça, j'en garde un souvenir extraordinaire, parce que tout ce qu'il a fait, il a pris l'enfant, il a regardé si je ne m'étais pas trompée, je ne vois pas pourquoi d'ailleurs, et il m'a dit, bon, ben, c'est une fille. Alors à ce moment-là, on me l'a mise sur le ventre, parce qu'on attend que le sang cesse de passer par le cordon ombilical. Puis je l'ai regardé, je lui ai trouvé une bonne tête, il m'a dit, tiens, d'habitude on dit plutôt qu'ils sont affreux, j'ai dit non, j'ai trouvé une bonne tête, et puis on a coupé le cordon, on l'a emporté, elle m'a manqué un petit peu tout de suite, puis on me l'a ramené habillée, et puis après, c'était autre chose.
Et pour terminer cette émission, voici, sans qu'on ait rien changé, les dernières minutes d'un accouchement pratiqué selon cette méthode.
Ça vient.
Inspirez. Inspirez. Soufflez encore. Inspirez, bloquez. Les coudes relevés. Allez-y. Allez. Avec les abdominaux, bouche fermée. Allez-y. Allez-y. Encore. Allez-y, 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 allez-y. Maintenez votre effort. Encore un peu. Soufflez. Inspirez. Allez-y. Encore. 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 Encore un peu. Soufflez. Là, reprenez, inspirez, bloquez, poussez. Soyez bien calme. Allez-y. Encore. Encore. Suivez dans la glace la progression de la tête du bébé. Encore. Encore. Soufflez. Là. Là. Relâchez-vous bien. On essuie. Là. Quand on dirait ne pousser plus, qu'est-ce que vous allez faire? Hein, la respiration. Qu'est-ce que vous faites?
Difficile.
Accès. Oui. Vous rentrez. Hein?
Oui.
est bloqué. Allez, allez-y. Faites-le progresser. Suivez-le bien, surtout. Regardez-le bien avancer dans la glace. Encore. Allez-y, maintenez votre effort. Encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. Soufflez, reprenez. Inspirez, bloquez. Allez-y. Très bien. Encore. 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 Soufflez. Posez vos mains. Posez vos mains. Inspirez. Bloquez. Poussez. Relâchez-vous bien. Soufflez. Inspirez. Bloquez. Poussez doucement. 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 Suivez dans la glace. Soufflez. Inspirez. Bloquez. Poussez doucement. Tout doucement. Relâchez-vous bien. Tout doucement. Soufflez. Là. Inspirez. Bloquez. Poussez doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Ne poussez plus. Ne poussez plus. Suivez dans la glace. Respiration étonnante.
RTF France 3 National vient de vous présenter Douleur et souffrance. Une suite d'émissions composée par Harold Portenois, avec la collaboration de Claude Frère et de Colette Garrigue, et présentée par Michel Foucault. Aujourd'hui, l'accouchement sans douleur, avec la participation de Claude Revaud-Dallon, sociologue, Alfred Metro, ethnologue, ainsi que des témoignages, dont celui d'un médecin. Prise de son Pierre Simon, collaboration technique Monique Germain, assistant Jacques Devin, réalisation José Pivin. C'était Recherche de notre temps.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 National le 10 avril 1963. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.
Si tierra mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar. Reina que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrimas vierte la sitiería que tiende a desolar. es por no verte, reina que un día fuiste de aquel lugar.